SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
Vous êtes avec SBS French.
Vous êtes avec Radio SBS en français.
Rubrique rétrospective, c'est arrivé un 12 octobre, direction l'année 2002 avec Valentine Saboureau. On revient sur l'une des pages les plus noires de l'histoire indonésienne. Il s'agit du double, voire triple attentat de Bali. Une attaque qui a particulièrement touché l'Australie, dont les ressortissants ont constitué la majeure partie des victimes. Récit de la tragédie avec les archives d'ABC News et de l'Institut National de l'Audiovisuel.
Tonight, dozens of Australians feared dead.
Et le paradis se mua en enfer. Le 12 octobre 2002 dans la nuit, deux bombes explosent à l'intérieur d'un bar et devant une boîte de nuit très courue de Kuta à Bali. Le bilan final, 202 morts et 209 blessés, compte une grande majorité d'étrangers, dont 88 Australiens. John Howard, Premier ministre à l'époque, s'est rappelé 20 ans plus tard sur ABC News.
This was a major tragedy and a terrible attack, and of course it's something that rocked our country to its very core.
Un peu plus d'un an après les attentats du 11 septembre aux États-Unis, le monde est fébrile. La menace terroriste continue de peser sur les pays occidentaux, au point que l'ambassade américaine de Jakarta a même été fermée pendant 6 jours en raison de risques liés à Al-Qaïda. À Bali néanmoins, le tourisme continue de prospérer. Destination très aimée des Australiens, ils sont à l'époque 20 000 à s'y rendre en moyenne chaque mois pour surfer ou se relaxer en famille. Située au sud de Bali, Kuta est une station balnéaire très fréquentée par les étrangers. Le 12 octobre 2002, c'est un samedi animé comme les autres. On est sorti prendre un verre, on est allé danser. Vers 23 heures cependant, tout va brusquement basculer. Un premier kamikaze pénètre le Paddy's Pub où il se fait exploser faisant 8 morts et générant un mouvement de panique. Dans la rue à côté, un van Mitsubishi bourré de nitrate d'ammonium, de RDW et de Syntex provoque dans la foulée une gigantesque déflagration. Il est garé devant le Sari Club, une boîte de nuit bondée. La panique est totale et les premiers dégâts constatés sont immenses. Une minute après, une troisième bombe explose devant le consulat américain de Denpasar, sans toutefois faire de victimes. Des rescapés se rappellent cette nuit d'épouvante dans le journal français du lendemain.
Le restaurant où j'étais, moi, il était à 50 mètres du Sari Club. Le toit, elle a commencé à voler en éclats comme si c'était un toit de verre. 2 secondes après, il y a eu une deuxième déflagration. Ça a éteint toutes les lumières et moi, je me suis jeté sous la table, tout ça, quoi. Et après, je suis sorti tant bien que mal et c'est là que j'ai tout vu, quoi. Les gens, leurs fringues en lambeaux, les gens en sang, tout, quoi.
Très vite, la logistique prend le dessus. Il faut prendre en charge les blessés, dont de nombreux brûlés, identifier les corps et organiser le rapatriement des étrangers dans leur pays d'origine. Les morts sont issus de plus de 20 nationalités différentes et les secours sont compliqués.
Tout est dévasté à 200 mètres à la ronde.
Alors il y a à peu près 8 buildings qui ont été détruits. C'était très difficile parce que les rues sont petites, alors les voitures de pompiers ne pouvaient pas se rendre et c'était la catastrophe. Ils essayaient de sortir les gens un par un, tout ça.
Dans ce carnage, les Australiens paient le plus lourd tribut. Ensuite, ce sont les Indonésiens les plus touchés, beaucoup travaillant dans l'industrie du tourisme, d'autres passant simplement par là. Ils ont eu la malchance d'être au mauvais endroit, au mauvais moment. L'enquête indonésienne s'enclenche immédiatement avec le concours très actif des services australiens. John Howard.
One of the positive things, if you can look for positives out of such a terrible tragedy, was that Australia and Indonesia learnt the value of cooperating to fight terrorism.
et la piste mène rapidement à Jemaa Islamiyah, un groupe islamiste armé lié à Al-Qaïda. Parmi les dizaines de personnes impliquées et arrêtées rapidement, trois sont condamnées à mort en 2003 et exécutées 5 ans plus tard. Abou Bakr Bachir, l'un des leaders spirituels du mouvement, fait lui l'objet de plusieurs procédures. Emprisonné à diverses reprises, il est finalement relâché en 2021 en raison de son âge, au grand dam des anciennes victimes de l'attentat. Enfin, le cerveau présumé de l'opération, Nourdine Mohamed Top, est tué dans un raid en 2009. La police indonésienne dit en être sûre à 90%.
Votre communauté, vos conversations. SBS French.
Aimez, partagez, commentez. Suivez-nous sur facebook.com/sbsfrench.